Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème « Comment s'est fait la gestion des déchets radioactifs au Niger ». Depuis plus de 50 ans, Orano, l'ex-Areva, à travers ses filiales, valorise le potentiel uranifère du pays en exploitant respectivement des gisements situés au nord-ouest du pays dans la région désertique de l'Aïr. Selon la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité CRIRAD, la gestion des déchets radioactifs de la Cominac, cette ancienne mine d'uranium située à 250 km d'Agadez dans le nord du Niger a été fermée en mars 2021. Elle menace l'environnement du site et notamment les nappes phréatiques qui alimentent la ville d'Arlita. Sur le site de la Cominac, filiale du français Orano, 20 millions de tonnes de boue radioactive sont entreposées à même le sol et à l'air libre dans une verse à déchets. Ces résidus polluent l'air, mais également le sous-sol et donc les eaux souterraines, alerte la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité CRIRAD, qui a pu consulter le rapport final du projet de réaménagement du site de la Cominac situé à Arlita. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions et des analyses l'importance, les défis et les obstacles d'une meilleure gestion des déchets radioactifs au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir au téléphone Bruno Chariron, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité CRIRAD. Bruno Chariron, bonsoir.
Bonsoir.
Au studio, nous avons Madame Naomi Binta Stansli. Elle est membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Madame Naomi Binta Stansli, bonsoir.
Bonsoir, Mokhtar. Bonsoir, Bruno.
Nous avons également Seydou Karimou, membre de l'association des anciens miniers du Niger. Seydou Karimou, bonsoir.
Bonsoir.
Chers auditeurs, je rappelle que nous avons également invité Orano, l'ex-Areva et le ministère des Mines, mais malheureusement aucun représentant de ces deux institutions n'a pris part à ce forum. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Monsieur Bruno Chariron du CRIRAD, depuis 2002, la CRIRAD travaille avec l'ONG locale Agriman à dénoncer la gestion des mines d'uranium au Niger, tant sur le plan environnemental que sur les impacts directs ou indirects pour les populations. Aujourd'hui, quel est le résultat d'un engagement qui a duré une vingtaine d'années ici au Niger?
Ben, je dirais que d'abord, le résultat, c'est d'avoir contribué à renforcer l'autonomie, la capacité d'action de l'ONG à Greenman, puisque on travaille étroitement avec son président, M. Al-Mustapha Alassane, depuis 2002. Et cette collaboration a permis de mettre en évidence toute une série d'impacts sur l'environnement liés à des pratiques des industries minières, des pratiques qui ne sont pas normales, par exemple. Nous avons pu montrer que régulièrement, on découvre des objets radioactifs sur les marchés d'Arlite ou d'Akokan. Alors, il peut s'agir de ferrailles contaminées, il peut s'agir de pièces textiles qui sont probablement étanchéifiées dans des bassins. Et ce sont des objets qui sont radioactifs avec un taux de radiation qui peut être 10 fois, 20 fois supérieur à la normale. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons pu démontrer lors de la présence de la CRIRAD en décembre 2003, sur place. Et puis l'ONG à Greenman en particulier, en utilisant des différents appareils, peut faire ses propres contrôles. Deuxième type d'impact qu'on a pu mettre en évidence dès 2003, 2004, 2005, c'est la problématique de la contamination radiologique et chimique des eaux souterraines et des eaux qui étaient distribuées à la population, puisque nous avons découvert par nos propres analyses d'échantillons d'eau que les concentrations en uranium, donc ce métal radioactif, dans l'eau qui était distribuée à la population d'Arlit, étaient très largement au-dessus des normes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qui nous a beaucoup choqués à cette époque, je parle des années 2003, 2004, 2005, c'est que, alors que nous communiquions, nous, la CRIRAD, chiffres à l'appui sur la pollution des eaux distribuées à la population à Arly, l'entreprise Areva, de son côté, communiquait pour dire qu'elle faisait des contrôles réguliers bactériologiques, chimiques et radiologiques dans les eaux et qu'elle ne découvrait aucune pollution. Donc ça, c'est clairement un mensonge, puisque grâce au travail d'un journaliste français, nous avons pu obtenir en 2005 des résultats officiels du laboratoire ALGAD qui analysait l'eau pour le compte d'Areva. Et ces résultats montraient clairement, comme les nôtres, une pollution radiologique des eaux à cette époque-là. Donc le problème pour la population d'Arlit, c'est une exposition à la radioactivité par des ferrailles, par l'eau, par l'air, par le fait que des matériaux radioactifs, du banco, des stériles, ont été réutilisés pour remblayer des pistes, mais aussi pour construire des maisons. Et donc, c'est toute cette exposition de la population, des travailleurs bien sûr, mais de la population, que nous avons pu montrer depuis ces années 2003. Et c'est quelque chose qui continue malheureusement aujourd'hui et qui va continuer pendant longtemps, tant que un certain nombre de termes sources, un certain nombre de zones radioactives ne seront pas parfaitement assainies.
Monsieur Bruno Chareron, vous avez eu quand même à son temps la réaction d'Areva. Quelle était la réaction du gouvernement nigérien après la publication de votre rapport sur ces déchets radioactifs?
Alors, nous, vu de notre point de vue, il n'y a pas forcément eu de réaction extrêmement approfondie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, lorsque nous dénonçons, après analyse du rapport de la Cominac de 2020, lorsque nous dénonçons les conditions de stockage des, disons, 20 millions de tonnes de résidus radioactifs, nous n'avons pas perçu de réaction forte de la part des autorités pour apporter des garanties sur la sécurisation à long terme de ce site. C'est pour ça que c'est très important que la société civile puisse disposer d'éléments d'information indépendants et fiables de façon à interpeller les autorités du Niger. Et en ce qui nous concerne, nous, étant basés en France, notre rôle est plutôt d'interpeller les autorités françaises et l'industriel. Et je voudrais rappeler que lorsque nous avons démontré, par exemple, en 2007, que devant l'hôpital de la Cominac à Akokan, sur la piste devant l'hôpital, le taux de radiation était 100 fois supérieur à la normale du fait de la réutilisation de roches radioactives de la mine pour remblayer la piste, nous avons écrit à cette époque à Mme Anne Lauvergeon, qui était la présidente d'Areva, elle ne nous a jamais répondu. Donc, d'une manière globale, il n'y a pas de circuit de communication efficace entre les industriels ou les autorités, d'une part, et les organismes indépendants comme le nôtre, ou les représentants de la société civile. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je suis extrêmement déçu qu'aujourd'hui, dans ce débat, il n'y ait pas de représentants de la société Orano ou des autorités.
Merci beaucoup, Bruno Chareron. Nous revenons vers vous, Madame Naomi Bintestanceli. Quelle est la contribution de l'État, de ses partenaires et même vous, de la société civile, pour une veille citoyenne au sujet de ces déchets radioactifs?
Oui, bonsoir, Mokhtar. Bonsoir aux auditeurs de la radio Kolongo. En fait, à ce qui concerne l'État, moi, je dois parler en termes de loi. Et depuis l'exploitation dans les années 70, il n'y a pas une loi sur l'environnement. Arrivé même dans le cadre de code minier qui est intervenu après l'exploitation. Parce que quand l'exploitation a commencé, il n'y avait pas de... Ce n'est pas sur le code minier qu'il y a eu la convention. Donc ça a commencé jusqu'à quand il y a eu la loi cadre sur la convention, le code minier. Donc, mais la loi sur l'environnement est intervenue seulement en 2000. En 2000, il y a eu la loi cadre sur l'environnement. Mais si vous regardez cette loi-là, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté du moment où il n'y a pas de décret d'application. Ça manque de décret d'application. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décret d'application sur certains textes. Et dans cette loi, c'est dit qu'il y aura un fonds, et constituer un fonds pour l'environnement. Et ce fonds n'est pas constitué nulle part. Il n'y a pas ce fonds-là. Il n'est même pas constitué en plus fait 3 ans alimenté. Et ce fonds devrait être alimenté par les sociétés.
Madame Naomi Binta, est-ce que les populations locales sont au courant de tous ces risques auxquels elles sont exposées à Arlita?
Je vais à cela. Je commence par la loi pour dire que la loi cadre même est intervenue en 2000. Donc après l'exploitation, après des années d'exploitation, ça a intervenu et jusqu'à présent, ce n'est pas respecté. Ça, c'est un. D'aider, l'État de Niger ne dispose pas de laboratoire pour faire quoi que ce soit. Même l'échantillon de l'eau, c'est envoyé peut-être au Burkina ou bien même des plus petits échantillons pour regarder même des bactéries.
Ici, au niveau de l'inspection, on ne peut pas faire ces analyses.
Il n'y a pas ces analyses même. Même pour des bactéries, je pense que c'est envoyé au Burkina. Ici, au Niger, il n'y a pas de laboratoire. En plus forte raison, voir les niveaux de radiation, ça n'existe même pas ici. Il faut en France, comme Bruno nous a dit, c'est là-bas que les échantillons ont été envoyés par Ehrman, récupérés par Crirad, et c'est eux qui ont fait les analyses et qui ont fait les rapports en 2003, le premier rapport dont il parlait, et qui a relevé quand même des états d'urgence. Parce que c'est une exploitation.
Sanitaire et écologique.
Sanitaire et écologique. Et d'urgence même à nettoyer. Et au début, arriver à nier complètement. Parce que c'est ça la stratégie, c'est de ne pas informer la population. C'est de ne pas discuter par rapport à ça. C'est de ne pas laisser des informations. Et ils ont toujours nié. Jusqu'à présent, si vous allez aller vers Orano, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de radiation à l'île. C'est une question totalement tabou qui n'évoque pas en tant que société. Et c'est ça qui est même à la base de la création de Ehrman, dont je suis aussi le point focal. C'est Ehrman a été créé en 2000 par le constat qu'il y a des impacts quand même sanitaires, environnementaux, qui sont surtout visibles sur les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants. Et c'est pour ça que les gens se sont regroupés pour se dire non, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être aller en association, aller demander d'expertise. Et c'est en 2000 que l'association Agrément, l'ONG Agrément a été créée. Et en 2003, ils ont déjà approché CRIRA, ils ont approché pour avoir des données scientifiques. Et ces données scientifiques ont été présentées à l'État du Niger et aussi à Arono. Au premier temps, Arono, voilà, ils ont complètement nié. Après, ils sont revenus pour dire on va nettoyer, d'où la constitution de ce qu'on appelle Arlit Conter.
Arlit
Conter, ça veut dire que c'est de cibler, c'est de voir les endroits qui sont à partir de cette étude-là. Et de voir se constituer de la
société. Les endroits contaminés.
Voilà, pour nettoyer. Moi, je ne crois même pas, peut-être que aussi Bruno peut nous édifier, moi, je ne crois même pas qu'à un demi-siècle d'exploitation, on peut nettoyer quelque chose. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'Arlit. Ce n'est plus Arlit, l'eau d'Arlit et l'air d'Arlit qui est contaminée, c'est toute la zone d'Agadez. Et c'est de là-bas où la plus grande nappe du monde, souterraine du monde, de l'eau potable, existe. Et cette nappe, aujourd'hui, je pense qu'il y a de gros risques. Il y a de gros risques qu'elle est polluée jusqu'à Agadez, jusqu'à même au-delà d'Arlit.
Oui, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que les populations sont conscientes de tous ces risques-là?
Oui, je pense qu'il y a, un travail qui a été fait à Arlit par la société civile, par les organisations de la société civile, qui fait aujourd'hui que la population est plus ou moins consciente de ce qui se passe, mais peut-être n'est pas aussi savoir la gravité même de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans quelques années avec la fermeture de Cominac.
Madame Naomi Binta Dirotab, Orano anciennement arriva à exploiter pendant 40 ans cette mine d'uranium dans le Sahara pour alimenter des centrales nucléaires. Si le site de la Cominac a fermé depuis près de 2 ans, les déchets, eux, ne sont toujours pas confinés. L'entreposage à l'air libre de telles quantités de déchets radioactifs est un scandale selon les experts. On parle de 20 millions de tonnes de boue radioactive. Comment s'en débarrasser?
Comment s'en débarrasser? Je ne sais pas. Et qu'aujourd'hui, il y a des dispositions pour s'en débarrasser.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement et même Orano?
Il y a des comités qui sont en négociation pour comment il faut travailler l'après-mine. Parce que c'est de ça il s'agit. Et moi, je sais qu'ils ont mis des gens qui sont... En fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que ceux qui sont censés protéger, que les autorités protéger ces droits-là aujourd'hui les exposent. Parce que aujourd'hui, si vous prenez les autorités nigériennes, qu'est-ce qu'ils font pour dire à Areva, arrêtez de ce que vous êtes en train de faire? Il n'y a rien qui est fait dans ce sens. C'est quand la société civile parle, on arrive, on prend les gens, on arrête, on intimide, on est même en train d'arrêter des gens parce qu'ils ont parlé. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Agadez avec la société civile qui est partie à la justice avec une société. Et que cette société est une société canadienne, une société d'un pays où la démocratie, on pourra dire que c'est un pays démocrate, qui est en train de faire aujourd'hui plus qu'arriva même ou même chose qu'arriva à Agadez. Et la société civile d'Agadez qui est partie à la justice et que la justice a donné au début raison à la société civile. Et cette société, ces gens-là, ils sont venus pour utiliser leur déchéance pour aller avoir une audience avec le président de la République. Et après, c'est tout ce que la société civile a mis en place qui est tombé dans l'eau.
Merci beaucoup, Madame Naomi Binta Stansley. Je rappelle que vous êtes le représentant du Rotab ici à ce forum et même point focal de l'ONG Agriman basée à Arlita. Seydou Karimoun, dans la ville d'Arlita au Niger, la mine d'uranium exploitée par la Cominac filiale d'Orano, anciennement Areva, a fermé le 31 mars 2021. Aujourd'hui, quel est l'avis d'un ancien minier d'Areva?
Bonjour. Et d'abord, avant de répondre à votre question, je profiterai de l'occasion pour soutenir madame qui vient d'intervenir. Parce que si vous prenez l'historique même, et ça a commencé au niveau donc de la CEA.
CEA, ça veut dire
quoi? C'est le comité de l'énergie atomique. Après, donc, il y a eu Kogema, après, c'était Areva. Donc, après Areva, et maintenant, c'est Orano. Moi, j'ai exercé à Cominac du 26 mai 1981 au 31 octobre 2016. Où j'ai quitté pour faire valoir mes droits à la retraite. Mais en réalité, j'ai été aussi un acteur, parce que j'étais membre donc de Centramine, le syndicat des travailleurs des mines du Niger. Et à ce point, depuis les années de la création, nous nous sommes battus pour que l'État du Niger intervienne dans le cadre donc de la sécurisation de la population d'Arlite et aussi à travers donc la population d'Arlite, la sécurisation donc des travailleurs.
Ce qui est autour la sécurisation contre les
La radioactivité, donc les mesures de sécurité, parce que nous étions au fond de la mine, donc la mine, c'est le minimum, c'est de 250 mètres à 450 mètres sous terre. Et nous passons 8 heures de temps d'affilée dans la mine. Et c'était une mine qui tournait 24 heures sur 24.
À plein régime.
À plein régime. Il y a ni fête de travail. À chaque moment, la mine tourne 24 heures sur 24.
De 2016 à aujourd'hui, quelle est la vie que vous menez?
Bon, moi, actuellement, je suis à la retraite. Mais j'ai des contacts au niveau donc de la ville d'Arlit. Mais malheureusement, aujourd'hui, les anciens travailleurs qui sont restés à Arlit souffrent énormément. Ils étaient des pionniers.
Des pathologies, des maladies.
Il y a des maladies.
Respiratoires. Des problèmes de reins.
Presque tout. Parce que même les contrôles que devront faire ces sociétés minières, c'est deux ans, une fois tous les deux ans. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les contrôles qui se font. Donc, ils font la radio, ils font des prises de sang, et puis le contrôle de tension et autres. Mais même les résultats, c'est le docteur qui vous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il y a. Mais on ne vous donne jamais les papiers. Vous ne pouvez en aucun cas prendre un papier pour savoir réellement quels sont les résultats réels de ces analyses. Parce qu'en réalité, par exemple, quand on prend un contrôle, quand vous rencontrez un docteur, il vous sort le papier, il vous dit voilà ce qu'il a trouvé, et à vous maintenant de voir ce qu'il faut faire. Si on prend au niveau donc de ces contrôles, vous rencontrez maintenant, le rendez-vous est venu, vous faites toutes les analyses, mais après, quand vous allez rencontrer le docteur, il vous dit bon écoutez, ça va, donc rendez-vous dans deux ans. Et puis c'est fini.
Après votre retraite, Seydou Karimou, pourquoi vous avez choisi de venir s'installer à Niamey plutôt qu'à Arlit?
Bon, je suis de Niamey. Je suis né, j'ai grandi à Niamey. Après maintenant des études, Dieu a fait que j'ai travaillé à Comina. Donc à la fin, il faut revenir à la maison.
Vous êtes en bonne santé aujourd'hui?
Bon. Il n'y a que Dieu qui sait que je suis en bonne santé. Mais depuis 2016 à maintenant, il y a des moments vraiment, il y a des difficultés pour se réveiller. Même quand tu te réveilles pour te lever, il y a toujours des petits problèmes. On est obligé, actuellement, moi, vu mon âge, je suis obligé de faire de la marche, de faire un peu du sport pour essayer de garder un peu ma forme. Mais en réalité, et on ne sait pas réellement quelles sont les maladies que nous avons.
Vous avez les contacts des autres collègues restés à Arlit. Quelles sont les autres difficultés des anciens miniers?
Bon, la difficulté, c'est que nous nous sommes battus depuis la création donc, de notre organisation syndicale pour qu'il y ait un code minier. Malheureusement, ce code minier n'a jamais vu le jour jusqu'à la fermeture de Kouminak. Par exemple, aujourd'hui, on prend le code du travail. On prend au niveau, donc, par exemple, de l'administration. Il y a l'administration qui a aussi leur code. Mais malheureusement, au Niger, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une convention minière concernant les travailleurs. Par exemple, ils sont considérés comme quelqu'un qui travaille à 450 mètres sous terre est considéré comme un fonctionnaire qui travaille au 10e étage à Niamey. Ils ont les mêmes. C'est la même convention qu'on leur applique. Donc, nous nous sommes battus jusqu'à ce que nous avons quitté. Mais malheureusement, ce code n'a jamais vu le jour.
Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Chers auditeurs, je rappelle que nous avons également invité Orano Lexa-Arriva et le ministère des Mines, mais malheureusement, aucun représentant de ces deux institutions n'a pris part à ce forum. Bruno Chareron de la CRIRAD, la question de la gestion des résidus d'extraction de l'uranium n'est pas le seul héritage radioactif laissé aux populations d'Arlit et de de sa région. Elles sont exposées à la radioactivité au quotidien du fait de la pollution de l'air, de l'eau et de la présence de matériaux contaminés sur les marchés ou dans les habitations. Vous l'avez expliqué, vous l'avez relaté tout de suite. Comment expliquer cet état de fait?
D'abord, pendant très longtemps, les compagnies minières ont dit aux travailleurs et aux populations que l'uranium, comme c'est une substance qui est naturelle, c'est vrai, ce serait une substance qui ne serait pas dangereuse. C'est ce discours qui est scientifiquement faux. Il est tenu aussi en France. Et pendant des décennies, les mineurs en France, dans l'Hexagone, ont aussi été exposés à la radioactivité de façon tout à fait anormale. Et donc, au Niger, la situation est évidemment encore plus délicate du fait de la faiblesse de l'État pour qu'il puisse, l'État du Niger, faire lui-même des contrôles beaucoup plus sévères. Donc ça, c'est clairement un problème. Mais le résultat de ça, c'est-à-dire le manque de connaissance des travailleurs et des populations sur les dangers et les risques liés à la radioactivité de l'uranium d'une part, l'attitude des industriels d'autre part, et l'insuffisance de la puissance publique, des choses totalement aberrantes se produisent. Par exemple, il est grave que des ferrailles radioactives puissent être sorties des sites miniers et vendues sur le marché. C'est tout à fait anormal. Il est choquant également que des millions de tonnes de résidus radioactifs aient été simplement déversés. Je parle là en particulier de la Cominac, mais c'est la même chose pour la Somaïre, aient été déversés simplement à même le sol. Parce que ces résidus d'extraction de l'uranium, ces boues qui sortent des deux usines, usine Somaïre et usine Cominac, ce sont véritablement des déchets radioactifs au sens de la réglementation. Nous avons analysé les résidus de la Cominac en 2009 grâce à un journaliste qui en a prélevé. Et c'est que ce sont clairement des déchets radioactifs.
Oui, Bruno Chareron, est-ce que cela n'est pas la conséquence de la faiblesse ou bien de la faillite de la société civile ici au Niger?
Non, alors là, je pense que la société civile au Niger, elle est vraiment l'admiration de tous. Je veux parler de ce que je connais, c'est-à-dire à Guérinman. Guérinman fait un travail depuis... En tout cas, nous, on travaille avec eux depuis 2002, un travail qui est véritablement admirable. Un travail de dénonciation de ce qui se passe à Arlitz, dénonciation au niveau national, au Niger, au niveau international. Donc je crois que là, vraiment, vous avez une société civile, et le ROTAB aussi fait un travail extraordinaire, une société civile très efficace. Maintenant, nous sommes tous, nous, les ONG, puisque la CRIRAD est aussi une ONG, même si elle a son laboratoire scientifique. C'est une ONG, nous sommes face à des intérêts économiques extrêmement puissants. Je voudrais rappeler qu'en 2003, lorsque nous avons réussi à nous vendre à Arlitz, à la demande de l'ONG Agerinman, les compagnies minières ont d'abord fait pression sur Agerinman pour que la mission soit annulée. Et donc Agerinman a souhaité maintenir la mission CRIRAD, nous aussi, et nous avons pu aller sur place. Mais à l'atterrissage à Niamey en décembre 2003, j'ai été avec mon collègue, nous avons été les seuls passagers de l'avion qui ont été contrôlés aussi minutieusement par les autorités qui nous ont confisqué nos appareils de mesure. Et nous savons aujourd'hui que c'est une opération qui a été menée à la demande des industriels. Donc c'est très difficile pour les ONG, pour tout le monde, pour les syndicats, pour la population, pour les ONG, de faire un travail efficace face à la puissance des compagnies minières, d'une part, et des États, c'est vrai en France, hein, c'est vrai au Niger. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette situation aussi désastreuse quelque part, parce que franchement, qu'une telle quantité de boue radioactive soit restée à l'air libre pendant des décennies, et c'est pas fini, puisque aujourd'hui, Cominac continue ses tentatives, qu'ils appellent des planches d'essai, de recouvrir ces boues radioactives, heureusement qu'ils essaient de les recouvrir, parce que c'est tout à fait anormal que des boues qui ont ce niveau de radioactivité soient à l'air libre, parce que les poussières radioactives et le gaz radon sont dispersés dans l'atmosphère et sont ensuite inhalés par évidemment les travailleurs qui sont les plus proches, mais aussi les populations nomades et aussi les populations de la zone. Alors, par rapport à ça, Orano, Renaud a dit récemment que ces poussières n'atteignent pas la zone urbaine. Je voudrais quand même rappeler que en France, dans l'Hexagone, nous recevons régulièrement des vents de sable, des poussières de sable qui viennent du Sahara. Donc c'est pour vous donner un peu une idée du niveau de désinformation qui est pratiqué par les compagnies minières.
Bruno Charreron, ces déchets vont être radioactifs pendant des centaines de millions d'années, en réalité des milliards d'années si l'on considère l'uranium résiduel selon les experts du domaine. Que faut-il faire à ce niveau?
Alors d'abord, il aurait fallu mettre ces déchets dans des containers, dans des systèmes étanches et les transporter en cage de déchets radioactifs qui garantissent un confinement pendant des centaines de milliers d'années. Ça n'a pas été fait. Les déchets ont été simplement déversés sur eux. Que faut-il faire aujourd'hui? Il faut évidemment les recouvrir pour limiter les transports des poussières radioactives, limiter le taux de radiation, limiter l'infiltration des eaux de pluie, parce qu'il pleut parfois tout de même à Arlit, parfois très violemment même.
La liaison téléphonique est mauvaise, Bruno. Nous allons revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Naomi Binta Stansley du Rotab. Madame Naomi, la CRIRAD et son partenaire nigérien, l'ONG Agriman, dont vous êtes le point focal à Niamey, dénonce l'héritage laissé par la Cominac et les conditions de cette fermeture, notamment au-delà des dénonciations. Y a-t-il d'autres actions à entreprendre?
Écoutez, en tant que société civile, si vous faites des dénonciations, si vous faites même des études scientifiques que vous apportez à l'État, que vous apportez à ces sociétés, je pense que qu'est-ce que la société civile peut faire de mieux comme ça? Quand la société civile dénonce, quand la société civile même va jusqu'à faire des marches, quand la société civile va jusqu'à faire des études scientifiques faites par des laboratoires qui sont reconnus internationalement, au niveau international, pour présenter à Areva, pour présenter à l'État du Niger, je pense que la société civile ne peut pas aller plus loin que ça. Parce que la société civile ne peut pas dire arrêter. C'est pas l'État, c'est l'État. Ça revient au gouvernement, ça revient à l'État du Niger de protéger ces droits-là. Et la société civile dit que les droits sont menacés, les droits sont piétinés. Le droit à un environnement sain, ça s'applique pas aujourd'hui à Arlit. Ça, c'est depuis longtemps. Parce que l'environnement est contaminé par des radiations. Et l'accès à l'eau potable, ça ne s'applique pas par Arlit. C'est des droits qui sont piétinés. Et droit à la santé, ça ne s'applique pas à Arlit. Du moment où vous avez entendu l'ancien ministre, aujourd'hui, il n'y a aucun ancien ministre qui est mort d'une maladie professionnelle. Il n'y en a pas au Niger, il n'y en a pas en France. Donc ça veut dire que c'est une société qui a exploité pendant un demi-siècle des minéraux les plus dangereux au monde et qui n'a contaminé personne. Est-ce que ça n'attire pas l'attention de quelqu'un? Même celui qui ne connaît pas, celui qui n'a aucune notion sur ce qui se passe, je pense que ça peut l'interpeller.
Oui, Madame Naomi Binta Stansley, pourquoi le mot Areva fait peur au Niger quand il s'agira de traiter les questions de pollution ou de déchets radioactifs?
Non, je pense que Bruno l'a rappelé, c'est pas que ça fait peur, c'est des intérêts. C'est des intérêts des grandes entreprises, c'est les intérêts des États qui sont
au détriment des populations locales.
Au détriment des populations, au détriment même
de l'État du Niger.
De l'État du Niger. Parce que c'est un État qui a exploité pendant 50 ans, pendant un peu plus d'un demi-siècle de l'uranium, qui a enrichi un autre État. Et que voilà l'état de pauvreté. Aujourd'hui, même pour se rendre à Arles, c'est un casse-tête. Même la route n'existe pas. C'est la route des années 70 que les mêmes sociétés ont utilisé pour évacuer des centaines de milliards d'euros, même pas de CFA, et qu'aujourd'hui, elle est impraticable. Qu'est-ce que l'État du Niger a gagné? Je pense qu'aujourd'hui, même pour l'exploitation à venir, et aujourd'hui, on peut dire qu'on ne peut même pas exploiter. Faire la balance entre ce qu'on va perdre en termes d'environnement, en termes de santé
et
ce qu'on va gagner en termes économiques, qui est des miettes, qui est juste des salariés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gagné concrètement d'exploitation d'Areva? Vous le voyez? Vous êtes venu après les années 50. Je pense que après les années 70, vous êtes le plus jeune de Niger, vous êtes un Nigérien, un jeune Nigérien. Si vous regardez aujourd'hui pour vous dire c'est quoi l'héritage d'Areva au Niger, c'est quoi l'héritage d'Areva au Niger, qu'est-ce que vous allez répondre aujourd'hui?
Madame Naomi Binta Stansley du Rotab, la mine d'Akuta exploitée par Orano, l'Exa arriva à épuiser ses ressources en uranium. Le site d'Imouraren prendra-t-il le relais?
Écoutez, le site de Imouraren est connu que ce site-là a de l'uranium depuis dans les années 70. Ça, c'est arrivé à conserver ça, à laisser ça pour la génération future. C'est pas parce que...
La génération future de quel pays? Du Niger.
Je parle d'Areva. C'est de quel pays je parle? Parce que vous vous souvenez qu'en 2012, quand nous, on a fait, entre 2012 et 2014, quand Areva a dit qu'ils ne vont pas signer sur la base d'une convention sur la base des années de code minier du Niger qui date de 2006. Et c'est autant de temps déjà en 2006, on a changé le code minier. Donc ce code minier a pris en charge quand même certains dispositifs, a mis en place certains dispositifs pour que l'État gagne plus pour protection de l'environnement.
Malheureusement, l'État...
Arrivé à la fin de la convention de Areva en 2012, ils ont dit que non, cette convention, la loi 2006 ne les arrange pas, ils ne peuvent pas signer. Et ça a tiré en 2012, ils ont fait ce qu'on appelle le protocole d'accord type. Pour continuer à exploiter. Ce n'est qu'en 2014 où la convention est intervenue, mais ça prend effet en 2013. Vous voyez, d'un an de vide. Parce que pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de convention, c'est sur la loi que l'exploitation est faite. Donc ils ont dit non, la convention est intervenue en 2014, mais ça prend effet ultérieurement. Est-ce que ça, vous avez vu une fois des choses comme ça dans un pays, et un pays démocrate, un pays indépendant? Est-ce qu'une société peut venir faire des lois? Si c'est pas honnête.
Merci beaucoup, Madame Naomi Binta Stansli. Seydou Karimou, comment vous vous êtes rendu compte de l'impact de la mine sur la santé des travailleurs et même des habitants d'Alita?
Nous avons remarqué sur ce point, tout d'abord, ceux qui sont sur place. Et au moment où nous étions sur place, donc à un certain moment, quand tu dors, le matin, quand tu te réveilles, c'est comme si tu avais un poids sur toi.
Mais c'est dû à la fatigue ou bien c'est...
Ce n'est pas la fatigue, c'est la radiation. Et surtout quand tu viens en congé.
À Niamey ou
à l'intérieur, Maradi, Zander, Difa, Tawa et autres, quand tu viens à Tillabéri en congé. Mais une semaine après, mais tu te sens en forme. Mais quand tu retournes là-bas, à peine une semaine après, deux semaines, le même problème surgit. Même les traitements, quand tu te présentes au niveau donc, de l'hôpital de Kominak ou de l'hôpital de Somaïr, malheureusement, c'est les contrôles et on te dit jamais réellement ce que tu as comme maladie. À Kominak, nous avons eu un seul docteur qui lui aussi n'a pas duré. Et un certain Alassane Seydou, quand il était venu à Kominak, à peu près plus de 80% de la population, il leur a changé les traitements qu'il a trouvé qu'on leur donnait. Parce que le traitement est à part, la maladie est à part. Et à un certain moment, il était obligé purement et simplement de démissionner. Il a démissionné, il a dit qu'il ne peut pas continuer.
Alors, Seydou Karimou, avant le démarrage des activités des mines, est-ce qu'Areva a pris le soin de prévenir les travailleurs et de leurs familles au sujet de ces risques encourus?
Ces sociétés n'ont jamais prévenu. Et surtout qu'ils ne tiennent même pas compte de l'avis du gouvernement du Niger. Et surtout que ce gouvernement ne donne même pas d'avis. Parce que nous, en tant qu'organisation syndicale, au moment où nous étions en activité, quand nous avons écrit plusieurs fois pour attirer l'attention de ce gouvernement sur les risques encourus et par la population et par les travailleurs. Malheureusement, rien n'a été fait.
Merci beaucoup, Seydou Karimou. Si la ligne est bonne, nous allons aller vers Bruno Charreron. Bruno, à présent, quelles sont vos propositions, conseils ou recommandations pour une meilleure gestion des déchets radioactifs au Niger? Rapidement.
Mais d'abord, par rapport aux nouvelles exploitations qui sont en train de se mettre en place, on a évoqué rapidement tout à l'heure le projet de la SOMIDA avec Global Atomic, compagnie canadienne. Bien, il va falloir veiller à ce que justement les déchets radioactifs qui vont être produits ne soient pas traités comme l'ont été les déchets produits par la Comilac et la Somaïr. Mais il faut bien savoir que, à ma connaissance, dans le monde, personne n'a de solution efficace pour garantir le confinement à long terme de millions de tonnes de boues radioactives. Donc, si votre question est quelles sont les bonnes solutions, je n'en connais pas. Simplement, au moins, il faut que les populations, les locaux, les citoyens soient au courant de ces problèmes. Il faut au moins leur signaler que si on extrait de l'uranium, il va y avoir une pollution des eaux souterraines et la production de déchets radioactifs qu'on ne sait pas gérer à long terme. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a évidemment des méthodes de gestion plus ou moins satisfaisantes. C'est clair que laisser des millions de tonnes de déchets à l'air libre, ce n'est absolument pas satisfaisant. Il faudrait les mettre dans des emballages spéciaux, les déposer sur des zones complètement étanches, avec des couches d'argile au sol très épaisses. Ce n'est pas ce qui a été fait pour la Comilac, puisque une partie d'infiltration radioactive dans les eaux souterraines est liée au fait que les déchets de la Comilac sont pas loin d'une faille nord-sud et qui a donc permis qu'une partie de la radioactivité qui est dans les déchets atteigne les eaux souterraines. Et c'est ça qui est particulièrement choquant à long terme, c'est qu'il y a un risque qu'à long terme, la pollution des eaux souterraines qui est proche du stockage de Comilac puisse atteindre les zones de captage d'eau potable d'Arlite qui sont à peu près à 8 km au sud-ouest de ce stockage de déchets radioactifs. Donc ça pose aussi la question, pourquoi les autorités ont-elles implanté des captages d'eau souterraine dans une zone qui est potentiellement sous l'influence des écoulements souterrains d'un stockage de déchets radioactifs? Là, après, ça pose un problème vraiment de réflexion et de compréhension globale des impacts environnementaux à long terme.
Merci beaucoup, merci infiniment Bruno. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Je rappelle que nous avons également invité Orano Lexa Areva et le ministère des Mines, mais malheureusement aucun représentant de ces deux institutions n'a pris part à ce forum. Nous avons eu le plaisir de recevoir Bruno Chareron, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité CRIRADA. Madame Naomi Bint-Stansley, membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB et point focal de l'ONG Agrimana, et Seydou Karimou, membre de l'association des anciens miniers du Niger. Merci à nos invités et à vous tous, chers auditeurs, auditrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou, qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Merci, au revoir.